Vous propose aujourd'hui de découvrir Mon Avis Citoyen. Nous sommes en compagnie de Yves Kergal, qui est le président de Mon Avis Citoyen, une plateforme participative qui donne la parole aux habitants pour éclairer les politiques publiques. Et une récente enquête a été menée auprès de 18 650 citoyens, hein, dans plusieurs communes. Nous sommes donc en compagnie de Yves Kergal. Bonjour.
Bonjour Géraldine.
Nous allons ensemble décrypter les résultats, comprendre les attentes des citoyens et explorer en même temps les pistes pour reconstruire une santé plus équitable. Mais avant cela, pouvez-vous nous présenter les grandes lignes de cette enquête citoyenne menée par Mon Ami Citoyen ?
Oui, ben, Mon Avis Citoyen, nous on invite les habitants de toute la France à faire des propositions et donner leur avis sur leur ville. Et là, on s'est intéressé à la question de l'accès aux soins. Et on a posé en fait deux questions à plus de 18 000 personnes. Première question, est-ce qu'il est facile de soigner notre ville ou non? Et puis, que peut-on améliorer? Cette enquête, elle a été faite en deux phases. Une première phase en 2022 et une deuxième phase très récemment en 2025. Et elle nous apprend beaucoup d'informations sur l'évolution du sentiment de désert médical en France. Et elle nous apprend surtout qu'on voit émerger dans les territoires des chemins pour améliorer l'accès aux soins.
Pourquoi avoir laissé 3 ans entre chaque étude ?
Alors, pourquoi laisser 3 ans ? Premièrement, la santé, c'est un thème de vie quotidienne. Hein, je veux dire, quand on est malade, on a besoin d'un médecin. Hein. Bon. Donc, c'est une attente qui est forte et récurrente. Le deuxième sujet, c'est qu'il y a un débat national continu sur le sujet. Si on écoute les discussions budgétaires en ce moment, eh ben, ça ressort évidemment dans l'actualité. Une autre raison, c'est qu'on sait qu'il y a un sujet de démographie médicale qui va prendre du temps à se résoudre, c'est-à-dire en bon français, on manque de médecins, parce que probablement on n'en a pas formé assez. Et ce qu'on voulait voir, c'est si le sentiment des Français a changé pendant cette période.
Alors 74% des Français estiment qu'il est difficile de se soigner près de chez soi, près de chez eux. Qu'est-ce que cela dit de notre système de santé ?
Alors 74%, c'est 3 sur 4, c'est un chiffre considérable. Ce que ça dit, évidemment, c'est que le système de santé ne répond pas aux attentes à hauteur des espérances. Bon. Ce que dit aussi cette étude, c'est que ce chiffre était de 80% il y a 3 ans. Donc ce que ça veut dire, c'est que le sentiment de désert médical commence à reculer. Ce que ça nous apprend également, quand on regarde un peu le plus en détail, par taille de ville, par catégorie socio-professionnelle, ben c'est qu'il y a une fracture médicale qui tend plutôt à s'ouvrir dans certains territoires, notamment les territoires, les petites communes, moins de 10 000 habitants, et qui également tend à s'écarter sur les catégories socio-professionnelles les moins favorisées, hein, les employés, les ouvriers et les retraités. Donc c'est ça qui nous marque dans cette étude.
Quels sont les territoires les plus touchés par cette fracture médicale ?
Alors il y a des inégalités régionales, oui. Très clairement. Puisque ce qu'on voit, c'est que le taux de satisfaction y va de 41% en Île-de-France à 9% en Centre-Val-de-Loire. Le Grand Est, votre région, est un taux de satisfaction de 30%, est en légère progression depuis 3 ans, puisqu'il a monté de 2 points. Donc il y a des inégalités régionales. Des régions comme par exemple l'Île-de-France, la Nouvelle-Aquitaine ou Auvergne-Rhône-Alpes, hein, c'est-à-dire Paris, Bordeaux, Lyon, ont tendance à s'améliorer, enfin le sentiment s'améliore très nettement depuis 3 ans, alors que en Grand Est, on est à plus de 2%, donc ça s'améliore un peu, mais c'est quand même très modeste. Et certaines régions très rurales, comme le Centre-Val-de-Loire ou la Normandie, sont encore à la baisse.
Comment qu'on peut expliquer ce retournement avec, par exemple, vous l'avez dit, le Grand Est et ses 2 points en plus ?
Les explications qu'on voit, c'est que Il y a en fait une différence d'évolution en 3 ans suivant la taille des villes. Et en particulier, là où ça monte vraiment, c'est les villes de 10 à 100 000 habitants, les territoires de 10 à 100 000 habitants, qui étaient très en retard en 2022. Et en fait, ce qu'on observe sur le territoire, c'est que ce sont des tranches de collectivités pour lesquelles il y a eu énormément d'ouvertures de maisons de santé ou de centres médicaux. Et c'est là qu'elles se sont vraiment ouvertes fortement sur les 3 dernières années. En revanche, dans les territoires plus petits, les moins de 10 000 habitants, eh bien le sentiment continue à baisser. Donc à l'échelle du département, à l'échelle du Grand Est, on voit aussi, Grand Est, comme vous le savez, c'est très grand, hein, et très diversifié, on voit également des évolutions assez différenciées. Par exemple, la collectivité européenne d'Alsace, les anciens Haut-Rhin-Bas-Rhin, on est franchement à la hausse, ainsi qu'en Marne et en Meurthe-et-Moselle. Par contre, en Meuse, en Moselle et dans les Vosges, on est plutôt assez stable par rapport à 2022.
Oui, pardon.
Oui, je vous en prie.
Je disais, vous avez parlé tout à l'heure des maisons de santé. Comment oui. Les citoyens perçoivent-ils les maisons de santé ou les petites équipes paramédicales que l'on voit un petit peu plus maintenant?
Alors, très clairement, d'abord les maisons de santé, ce qui est compliqué, c'est de les fabriquer. Et ça prend un temps fou, parce que la réalité, c'est que la santé est une compétence dite régalienne, c'est-à-dire que c'est la responsabilité de l'État, mais que dans les territoires, ce sont plutôt des sujets qui sont pris en main par les intercommunalités, donc les agglos, les métropoles, avec souvent de l'aide des différents partenaires, et notamment les départements qui aident. Donc ce sont des projets qui sont premièrement assez longs. Deuxième chose qu'on observe sur le territoire, c'est qu'une chose est d'avoir un lieu, une autre chose est d'avoir des professionnels de santé dedans, et de les garder. Et ça, c'est parfois très compliqué. En fait, du point de vue de l'habitant, la maison de santé, le centre de santé, qu'il soit public ou privé d'ailleurs, que les médecins soient libéraux ou salariés, ça dépend des territoires, eh bien c'est un repère, c'est un endroit où finalement j'ai un problème, je sais que je peux y aller. On s'aperçoit comme très nettement que le sentiment monte. C'est pas que j'y vais, mais c'est que je peux y aller. Parce qu'aujourd'hui, la peur, la crainte, un des éléments dominants, c'est combien de temps je vais mettre pour avoir un rendez-vous avec un médecin, que ce soit un généraliste ou un spécialiste. Et il est clair que la maison de santé augmente le niveau de confiance dans le fait que je vais pouvoir trouver rapidement le rendez-vous dont j'ai besoin pour moi, pour mes enfants, pour mes parents. Il faut voir aussi une chose qui est très sensible, c'est le problème de trouver un médecin traitant, un médecin référent. Je lisais un chiffre récemment qui disait qu'il y a 6 millions de Français qui n'ont pas de médecin référent, dont 600 000 en affection longue durée. C'est considérable, c'est 10% de la population française. Voilà. Et donc ça reste évidemment une crainte, une peur. Qu'on soit malade ou pas, la peur, elle est là, hein, pour être très clair.
Est-ce qu'il y a d'autres attentes exprimées par les citoyens en matière de santé de proximité? Vous en avez parlé, les délais sont assez longs pour aller voir un médecin, spécialiste oui. ou pas, hein, d'ailleurs.
Alors, oui. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a demandé aux Français qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et donc, tout ça nous a donné énormément d'informations, de terrain, et on voit qu'il y a 4 spécialités qui sont demandées en proximité de façon assez massive. La première, c'est les dentistes. Évidemment, hein, quand j'ai mal aux dents, je ne vais pas faire 50 km ou attendre 3 semaines. La deuxième, ce sont les dermatos. La troisième, c'est les ophtalmos, et la quatrième, c'est les pédiatres. Donc ça, c'est les spécialistes qui manquent le plus en proximité. Okay. Ce qu'on voit aussi émerger, c'est peut-être un début de désert paramédical, c'est-à-dire les professionnels de santé qui ne prescrivent pas, hors médecin. Et en particulier, il y a 3 professionnels de santé, 3 métiers, qui créent une grande insatisfaction quand on ne l'a pas proche de chez soi, c'est les kinés, de façon très massive, et on a une vraie pénurie de kinés en France. Et on commence à voir arriver les pharmaciens, notamment dans les territoires ruraux. Hein, les officines ont tendance, commencent à fermer, et également les infirmiers. Donc, ce qu'on veut avoir pas trop loin de chez soi, et si possible dans une maison de santé, c'est des dentistes, des dermatos, des ophtalmos et des pédiatres, avec des kinés, des pharmaciens et des infirmiers.
Alors que chez nous, dans le Grand Est, nous avons plutôt des psychologues.
Alors, oui. On en a besoin aussi.
Oui, aussi,
mais,
oui.
Mais là, on est vraiment dans les professions médicales de l'urgence. Le dentiste, c'est
voilà,
urgent.
Hein.
Et le kiné, ou alors dans les professions de paramédicaux, c'est les professionnels qu'on voit souvent. Vous voyez, oui. Le kiné, l'infirmier, on le voit souvent. Le psychologue, on le voit un peu moins souvent que l'infirmier ou le kiné.
Exactement, oui. Dans l'étude, on voit que les jeunes sont plus satisfaits que les seniors. Les seniors, est-ce que c'est lié à la fracture numérique ou pas que ?
Alors effectivement, on a un effet très fort où on voit que les 18-39 ans, leur satisfaction augmente très fortement entre 2022 et 2025. Très très fortement. Elle monte un petit peu dans les tranches 40-60 ans, mais elle continue à baisser pour les plus de 70 ans. Une des explications, c'est effectivement le sujet numérique. Parce que depuis quelques années, il y a des services. Par exemple, on prend des rendez-vous beaucoup plus facilement grâce à des plateformes. On peut les citer, un type Doctolib, par exemple. Donc, sur la prise de rendez-vous, il est clair que les plus jeunes, enfin jusqu'à 60, 70 ans, sont plutôt plus à l'aise avec ces outils-là. Au-delà, on est moins à l'aise avec ça. Et probablement, la digitalisation explique en partie ces évolutions, c'est-à-dire le rythme d'adoption des outils. En revanche, on voit, il y a la télémédecine dont on a beaucoup parlé au moment du Covid, qui est peu citée par les habitants, très peu citée. Et pour lequel on sent que les rythmes d'adoption sont un peu plus faibles. Après, vous avez aussi pas mal d'initiatives hein, de terrain qui sont prises souvent par les départements qui vont créer des dispositifs, des bus médicaux voilà, qui vont aller sur les territoires. Ça crée effectivement beaucoup de satisfaction, ça crée un point de repère hein, pour les habitants, mais c'est assez difficile à mettre en place et coûteux, donc ça est encore au stade des prémices, c'est-à-dire le cabinet médical vient au patient, c'est plus le patient qui vient au cabinet médical.
Pourtant, certains médecins n'aiment pas trop les téléconsultations.
Alors oui,
pourquoi ?
Il y a eu...
Bonne question.
Parce que je ne suis pas médecin,
mais
ce que je comprends, c'est que le diagnostic se fait... voilà, évidemment, on peut toujours prendre sa tension sur une machine, dans une cabine, voilà, mais il est clair que les médecins ne sont pas toujours très très fans de ça. Il y a eu une augmentation importante, notamment on a bien vu tous les débats sur les arrêts de travail, hein, dont certains se déroulent actuellement au Parlement. Donc c'est pas un outil où on sent une volonté d'adoption pour monsieur et madame tout le monde. Hein. Probablement ça fonctionne dans certaines circonstances, mais pas d'autres. Voilà. Il y a aussi une autre tendance qui peut arriver, c'est les infirmières qui font, ça c'est des tentatives qui se passent actuellement en France, où les infirmières ne vont pas prescrire, mais voir le patient avant le médecin. Le seul problème, c'est que les infirmières, on commence à vraiment en manquer beaucoup. Et je pense en particulier à des territoires frontaliers, comme vous l'êtes dans l'Est, hein, parce que être infirmière en Suisse ou en Allemagne, c'est beaucoup plus confortable et agréable que de l'être en France, pour être clair.
Sûr.
Et beaucoup mieux payé en particulier. Donc voilà, tout ça évolue. Je pense que le point numéro un, c'est la prise de rendez-vous. Parce que c'est vrai qu'avec le digital, c'est quand même beaucoup plus facile de trouver un rendez-vous rapidement.
Oui, c'est vrai.
Que de décrocher son téléphone et d'appeler 10 médecins en priant le ciel qu'il y en ait un qui a un rendez-vous dans un délai rapide.
Je confirme. Comment Mon Avis Citoyen espère-t-il faire évoluer le débat public avec cette enquête?
Nous, ce qu'on pose, c'est on pose un constat.
Oui.
Et on le pose dans la durée, parce que même si pour nous, citoyens, quand on a besoin d'un médecin, c'est tout de suite, le sujet de la politique de santé, c'est que c'est une politique qui se joue dans la durée. Moi, ce que je vois là, dans le débat, je crois que cette étude montre qu'il y a clairement un chemin pour améliorer la vie médicale des Français, c'est-à-dire pour apporter de la sécurité de soins, c'est très important, de la proximité et de la qualité. Et clairement, c'est un sujet de structure de proximité sur le modèle de la maison de santé, du centre de soins, voilà, on appelle comme on veut, du centre médical de soins, il y en a beaucoup. Et donc ça, c'est un chemin qui est rassurant et efficace pour les Français. Par contre, il faut que ces centres, ces structures de proximité, elles soient dotées des professionnels qui sont ciblés, c'est-à-dire dentistes, ophtalmo, dermato-gynéco, dont on a parlé tout à l'heure, ainsi que des kinés, des pharmaciens, des infirmiers et aussi des orthophonistes. Ensuite, l'autre élément qui est très important, toujours dans ce chemin pour améliorer la vie médicale, c'est que ces structures, elles doivent être coordonnées avec des spécialistes de ville et des structures hospitalières. Autant on peut accepter de faire des kilomètres pour aller consulter un oncologue, autant on ne va pas les faire pour aller consulter le dentiste, hein, pour être clair. Ce qu'attendent les Français profondément, c'est pouvoir consulter rapidement des médecins et des professionnels de santé dont j'ai besoin et près de chez moi. Et ça ne doit pas relever de la chance. Hein. J'ai vu quelques verbatim de ce type-là dans l'expression des Français. L'autre élément qu'on apporte dans le débat, c'est que quand vous regardez un peu en détail où est-on un peu plus content et où on est moins content, il y a clairement une corrélation entre le sentiment de l'offre de soins et le sentiment d'abandon de certains territoires et certaines catégories professionnelles moins favorisées. Donc pour dire les choses de façon simple, c'est la perception stagne ou recule dans les territoires les plus ruraux, où c'est le bon vieux syndrome bien connu, hein, c'est quand un seul médecin ou une infirmière s'en va sans être remplacé, ben, on a des milliers d'habitants qui se sentent abandonnés. Mmh. Et c'est vrai.
Oui, bon. C'est vrai.
C'est le syndrome des vieux du généraliste qui voyait 70 patients par jour, vous voyez, qu'on connaît tous. Quand il y en a un qui part, il y a vite 2000, 3000 personnes qui sont impactées. Et puis l'autre élément, c'est les catégories socio-professionnelles plus âgées, les retraités, les ouvriers, les employés, les personnes sans activité, qui se sentent de plus en plus abandonnées. Donc moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un chemin pour réussir. C'est des maisons de santé de proximité ou équivalentes. Et il y a un sujet de fracture et de sentiment d'abandon que l'accès aux soins, finalement, révèle et amplifie.
Ce sont donc des actions concrètes qui pourraient être mises en place.
Tout à fait. Ouais. Par exemple, je sais que quand il a été nommé notre nouveau Premier ministre, mais combien de temps sera-t-il là ? Avait dit qu'il fallait une maison de santé à moins de, je crois, de 30 km ou 30 minutes de tout citoyen. Mmh. Clairement, il adresse exactement la bonne attente. Ce que j'ai tendance à penser aussi également, c'est que, bien sûr, ça coûte cher une maison de santé. Hein, grosso modo, suivant la taille, ça coûte entre 2 et 10 millions d'euros. Ça coûte probablement moins cher que d'avoir des gens qui ne vont pas soigner, qui ne vont pas consulter et qui, à la fin, finissent aux urgences, hein. Et avec des pathologies lourdes. Donc, il y a tout un calcul dans lequel je pense qu'il est important de réaligner la promesse de la santé, la qualité de soins pour tous et de se réaligner avec la proximité. Parce que c'est très bien, mais il faut mieux éviter de il faut éviter ce sentiment d'abandon et de je suis tout seul avec mes problèmes pour moi, pour mes enfants, pour mes parents que malheureusement on connaît tous autour de nous.
Oui. Merci Yves Kerrigal pour cet éclairage précieux sur cette problématique qui touche au cœur de notre quotidien. L'enquête de Mon Avis Citoyen nous rappelle que derrière les chiffres, il y a des vies et des parcours et des attentes fortes. Alors, Pour celles et ceux qui souhaitent consulter les résultats complets ou participer également aux prochaines enquêtes, pourquoi pas, rendez-vous sur le www.monaviscitoyen.fr. Merci, Monsieur Kergal, et bonne journée.
Merci, Géraldine. Au revoir,
à bientôt. Au revoir.
Au revoir. RPL. 89.2. 92.